Philippe, métaphysique à Fribourg, le 19 avril 1983, troisième cours.
Nous allons essayer de comprendre comment, de fait, toute la philosophie première qui regarde, qui part du principe du jugement d'existence, ceci est, aboutit à nous aider à comprendre ce qu'est la personne humaine. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. C'est pas commode, parce que, de fait, à première vue, on ne voit pas très bien du passage de l'être à la personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre comme itinéraire. De l'être à la personne. Et comprendre qu'il n'y a pas d'autre itinéraire. Ça, on dira après. Je vais d'abord l'itinéraire positif. Et après, on verra qu'il n'y a pas d'autre itinéraire. Que si donc vous supprimez la philosophie première, vous supprimez la conception philosophique sur la personne. Et alors, vous retombez lourdement chez les psychologues. C'est la chute complète. S'il n'y a pas cette espèce de recherche permanente. Donc, nous partons de ce qui est jugement d'existence vu du point de vue de l'être. J'insiste un tout petit peu, nous l'avons vu déjà, pour ceux qui ont déjà compris ça parfaitement, ils peuvent se dire qu'on ne le comprend jamais parfaitement. Donc ils peuvent toujours le reprendre, hein, et essayer de bien saisir ce que représente ce point de départ de la métaphysique. Il n'y a pas d'autre point de départ de la philosophie première que celui-là. On pourrait dire, il y a la philosophie religieuse, il y a l'expansion de l'homme, il y a latin, comme non. La philosophie de l'homme religieux, l'expérience religieuse conduit à une interrogation, mais ne permet pas vraiment un point de départ nouveau. Donc, il n'y a pas d'autre point de départ pour la philosophie première que le jugement d'existence. Ceci est. Ceci est, alors, l'interrogation, mais ceci est, vous comprenez très bien, dans ceci est. Je ne veux pas insister sur le ceci, c'est pas ça qui m'intéresse. Ceci est, c'est Pierre existe. Et puis, je ne veux pas insister sur est. Et au fond, c'est là où l'intuition de l'être joue pour bien orienter l'interrogation. Dans le jugement d'exemple, ceci est, vous touchez l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en pleine lumière le est. C'est-à-dire Pierre existe. Ou, si vous aimez mieux, je suis. Le plus proche de Descartes. Je suis. Ce qui n'est pas intéressant, c'est le jeu. Le jeu, l'ordre psychologique. Le moi. Ce qui est nouveau, c'est je suis. Alors l'interrogation, qu'est-ce l'être ? Ça, c'est très important de bien comprendre ce passage entre les deux. Le jugement d'existence, ceci est, vous êtes en contact avec la réalité. Vous êtes en contact avec la réalité par le ceci. Et dans le ceci, l'intelligence saisit est. C'est ça toute l'astuce. L'intelligence qui dit ceci existe. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire que ceci existe? Vous avez la fameuse parole de Kant, hein? Sans talent. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, c'est la même chose. Pour un économiste, c'est parfait. Sans talent, qu'ils existent ou qu'ils n'existent, c'est extraordinaire d'arriver à dire ça. Vous voyez, c'est vrai au point de vue de la signification. Sans talent, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, c'est la même chose. Alors, c'est le point de vue qu'il faut saisir, que le point de vue de l'exister est au-delà de la signification, le ceci dans la signification, c'est Pierre, qu'il existe ou n'existe pas, la signification est la même. Et « et » représente quelque chose de particulier. Alors, je peux mettre en pleine lumière qu'est-ce que c'est que l'être. Je ne regarde plus le ceci, et je mets en pleine lumière qu'est-ce que c'est que l'être. Vous voyez, ça, c'est le propre de l'interrogation. L'interrogation formalise. Ce que je vous disais ce matin, c'est très important de comprendre ça. C'est la première formalisation d'intelligence. Quand vous interrogez. Quand vous interrogez, vous avez le pouvoir de ne regarder qu'un aspect de ce dont vous êtes immédiatement en contact. Vous ne pouvez regarder qu'un seul aspect. Et vous mettez en pleine lumière un des deux aspects. Vous pouvez mettre en pleine lumière le ceci, mais ça vous n'interrogez pas beaucoup. Ça dit, et, ah oui, pourquoi? Parce que justement, dans cette espèce d'intuition d'être, vous avez vu que Pierre existe, que le chat existe, que la vache existe. Et ainsi de suite, que le monde existe. Donc les ceux-ci peuvent être extrêmement divers. Qu'est-ce qui fait leur unité? Ils existent. Alors qu'est-ce que c'est que ce fait que cette diversité se ramène à l'être? Ils existent. Ils existent de façon différente, mais ils existent. D'où l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez? Ce passage est entre deux, était, si vous voulez, intuition de l'être. Je veux bien savoir bien ce que c'est que cette intuition de l'être. Et je crois qu'en effet, que pour passer à l'interrogation, comme presque toujours, pour toute interrogation, il y a souvent une intuition. Vous voyez, parce qu'une intuition, c'est devancer. On saisit quelque chose, c'est pas, on devance. Alors, on devance, qu'est-ce que c'est que l'être? Quelle est la signification de l'être qui n'a pas de signification? Mais c'est ça que l'intelligence pose. Hein. Vous voyez bien que la signification, c'est du côté du ceci. Sans à l'air, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ils ont la même signification. Pierre, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il a la même signification. Alors, qu'est-ce que c'est que ce « est » qui n'a pas de signification? Qu'est-ce que c'est que l'être qui est au-delà de la signification. Et c'est vrai, l'être est au-delà de la signification. Alors que l'étant est enfermé dans la signification. C'est ça que Marion n'a pas saisi, pour la plupart son nom. Dans Dieu et sans l'être. C'est ce qu'il n'a pas saisi. Il n'a pas saisi que être est au-delà de la signification. Alors il croit que quand on dit Dieu est, on enferme Dieu dans une signification, c'est-à-dire dans un état. Donc c'est très élémentaire au point de vue philosophique. Hein. Ça, c'est entrer dans la philosophie première. C'est d'essayer de comprendre comment est, qui n'ajoute rien au point de vue de la signification, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce l'être? Alors, seconde remarque très importante, ça je voudrais que tous, une fois qu'on a compris ça, on entre en philosophie première. On comprend que c'est nécessaire. On ne peut plus la refuser, c'est impossible. Parce que si vous refusiez ça, vous comprenez, vous seriez obligé d'admettre à la suite. C'est là qu'ils n'ont pas dépassé quoi. Vous seriez obligé d'admettre à la suite de Kant que sans talent, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, c'est la même chose. C'est un peu ennuyeux, point de vue philosophique, d'aboutir à ça. Alors, je comprends que la philosophie fait perdre la tête. Hein. Dire que vraiment c'est exactement la même chose. Ce qui existe ou qu'il n'existe pas, c'est sans tête. C'est dans mon tête. Puisque le non-être est dans ma tête, donc vous travaillez. Alors le réalisme philosophique, vous voyez, vous le saisissez là. Tant que vous n'avez pas atteint ça, vous n'êtes pas dans le réalisme philosophique, vous êtes dans les déterminations. Le réalisme philosophique, c'est le dépassement de la signification. C'est de dépasser ce que représentent les significations habituelles, les dix prédicaments. Les dix prédicaments. C'est l'au-delà des dix prédicaments. La philosophie, c'est dépassement des prédicaments.
les prédicaments ne sont pas encore la philosophie. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de discuter. Tant autour sont ceux qui font des mémoires sur les prédicaments, pour montrer justement qu'il faut les déplacer. Mais c'est vrai que les livres prédicaments ne sont pas encore la philosophie. C'est uniquement l'entrée, l'aspect propédeutique. C'est l'aspect qualitatif. C'est très important de comprendre ça. C'est capital, parce que les quantités font que la philosophie, c'est les livres prédicaments. Montrer qu'il y a un dépassement. Et alors, ce qui est important, vous voyez, être est au-delà de la signification. C'est vrai. Alors, est-ce que être a une signification ou n'a pas de signification? Est-ce que pour vous, hein, loyalement, quand vous essayez de réfléchir à l'instant, est-ce que être a une signification?
Bien non.
Non, Pierre, oui, Pierre. Cheval, oui. Qualité, oui. Mais être, non. Pas si j'aurais que ça de répondre. Hein. Je vous demanderais de répondre, j'aurais des oui, des non. Des gens qui ne veulent pas répondre, point d'interrogation, ce serait peut-être la plupart, hein. Point d'interrogation, après tout, une signification, pas de signification, je n'en sais rien. Parce qu'on n'y réfléchit pas. Je crois que « est » a une sur-signification. Et on sauve toujours par là. C'est une super essence qui sauve tout. N'est-ce pas ? Alors c'est une super signification. Il y a une super signification, et c'est vrai, il y a une super signification qui n'est pas la grosse signification des dix prédicaments. Vous voyez, qui n'est pas cette grosse signification des dix prédicaments, qui est autre chose, beaucoup plus subtile, beaucoup plus difficile. C'est quelque chose de beaucoup plus délicat. C'est vrai, il y a un mot. Tous nos mots expriment quelque chose. Même la petite conjonction « est », c'est pas la même chose, hein. Pas la même chose. Mais même et une signification. Alors, est, c'est évident. Ça, c'est évident. Quelque chose, quand je dis ceci, est. Quand je dis ceci. Vous voyez, mais alors, vous joignez là toute la philosophie analytique. Hein. Parce que pour la philosophie analytique, c'est la même chose. Ceci est et ceci. Je l'ai entendu dans ce propre auditoire. Hein. Pas ici, propre. Il disait ouvertement, parce que pousser à bout, il faut pousser les philosophes de la philosophie analytique jusqu'au bout. Ils disent que c'est la même chose. Ceci est ou ceci. Oui, ils sont conscients. Alors, ils n'ont rien, absolument rien inventé, c'est Kant. Tout simplement. Ceci est ou ceci. Et on comprend très bien Kant dit ça. Mais c'est ennuyeux de leur dire aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup progressé depuis Kant. Hein. On retombe dans cette position très curieuse de dire ceci ou ceci, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on a un positivisme. Oui. C'est qu'au fond, la seule chose qui existe, c'est les choses que je vois, la violette. La seule chose qui existe, et la pivoine à côté, hein, elle est petite. Alors, la violette et la pivoine, donc ceci est. C'est seulement les significations de dix prédicaments. Et est autre chose. Super signification. Alors, quand vous dites ceci est, et qu'est-ce que c'est que l'être ? Ce qui est important, c'est de saisir que là, vous êtes devant une super signification qui est la même. Alors là, ça, c'est très important pour dépasser Heidegger. Parce que pour Heidegger, ça n'a pas la même signification. Pour Heidegger, ceci est égal l'étant. Et est l'être. C'est totalement différent. C'est pour ça que penser l'être, c'est dépasser tous les étants. Alors ça, c'est aussi, vous voyez ça, c'est encore une autre manière, c'est intéressant, parce que c'est encore lié à Kant. Vous savez, Kant est difficile à dépasser, hein. On voit très bien l'influence de Kant, surtout sur les Allemands, c'est les Français. Moi, les Français ont beaucoup de peine à dépasser Descartes. Mais les Allemands ont beaucoup de peine à dépasser Kant. Ça fait des difficultés énormes. Hein. Alors, ceci est égal l'étant. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est autre chose. Penser l'être, c'est nier tous les étants. C'est nier tous les étants. Heidegger le dit textuellement. Donc l'être est totalement autre que les étants. Nous disons, ceci est l'étang, ça traduit S. Hein, n'oublions pas ça. Ceux qui sont trop, hein, trop proches de l'étymologie et qui croient que philosopher, c'est rester au niveau de l'étymologie, nécessairement identifient S et étang. Ils devraient se rappeler qu'avant eux, saint Thomas a dit que ens, id est, quod est. Quod est, c'est quoi? Ceci est. Ce qui est. C'est pas la même chose. C'est pas l'étang. Que l'étang soit ceci, que l'étang implique l'exister, c'est très vrai. Mais l'avantage de mettre ce qui est, vous décomposez, hein. Vous montrez que de fait, je peux regarder ce qui est, le ceci est. Et c'est vrai, c'est ce que je veux dire quand je dis que ceci existe. Je veux montrer que cette réalité particulière, cette fleur, elle existe. Elle n'est pas seulement dans ma pensée. Elle n'est pas seulement dans mon imagination. Elle existe. Elle est. Alors, une fois que j'ai décomposé, je peux me poser la question, est-ce que la super signification de est est la même que qu'est-ce que c'est que l'être? Et là, il y a un moment très important. Et c'est là où on abandonne Heidegger. Où on montre que Heidegger est resté dans une confusion. Alors, quelle différence y a-t-il entre ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être? C'est la formalisation de est. Qu'est-ce que c'est que la formalisation? C'est isoler pour mettre en pleine lumière. C'est ça, formaliser. Isoler pour mettre en pleine lumière. C'est proposer quelque chose qui normalement est dépendant d'un autre, le proposer pour lui-même. C'est le regarder pour lui-même. C'est lui donner un sort unique. Alors vous le mettez en pleine lumière. Vous voyez, quand je dis le mur est blanc, qu'est-ce que c'est que la blancheur? Ah. Est-ce qu'il y a une différence? Signification de blanc et la signification de blancheur. Regardez dans le petit Larousse. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Ça veut dire que la blancheur, je ne peux jamais la saisir pour elle-même. Je la saisis à partir du blanc. C'est pas si bête, hein, de dire ça. La blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc, c'est comprendre que c'est par le blanc que je connais la blancheur. Je ne connaîtrai jamais la blancheur en soi. Vous n'avez pas eu l'expérience de la blancheur en soi. Je ne crois pas. Vous avez pu l'imaginer. Imaginez un blanc de blanc. Oh, imaginez des choses extraordinaires, c'est vraiment le, vous voyez, super blanc, quoi. C'est une chose extraordinaire. Pas la moindre tâche, hein. C'est le blanc de blanc. Donc, ce par quoi le blanc de blanc. Alors, vous avez ce que les scolastiques appellent le cours, ce par quoi le cours, c'est-à-dire le principe. Et donc, en parlant de blancheur, nous formalisons le blanc. En disant être, nous formalisons être. Je n'ai jamais atteint l'être. Jamais. Ce que j'essaie d'atteindre, c'est ce qui est. Et dans ce qui est, son être. Donc, vous voyez, la formalisation de « et » par « être », c'est très important de comprendre ça, que c'est la même signification. Et donc, quand Heidegger oppose « étant » et « être », on peut dire qu'il se met pas dans le monde. On ne voit plus des... C'est très bien ce que ça fait. C'est ça, on va dire l'intelligence, hein. Quand vous prétendez que être est totalement différent de étant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous faites une séparation et vous mettez dans un état tel que vous ne pourrez plus jamais saisir ce que c'est être. Et c'est pour ça qu'il a alors à ce moment-là un procédé dialectique et c'est par le néant. Saisir l'être par le néant, c'est une stratégie, Aristote dirait, théologique. C'est Aristote dit ça. Aristote a dit ce projet-là avant qu'Heidegger existe. N'est-ce pas? Aristote avait répondu à Heidegger. C'est assez extraordinaire. Et il avait répondu. Il avait répondu prophétiquement. Heidegger est entré au ciel et qu'Aristote l'a reçu, il lui a dit purgatoire pendant un certain temps avant de comprendre ce que c'est que l'être. Parce que ça, c'est très dangereux. De ne pas comprendre ce que c'est que l'être. Et alors on comprend très bien cette histoire. Aristote dit mettre le non-être avant l'être. Mettre le non-être pour découvrir l'être. C'est les premiers théologiens qui ont dit ça. Et quand il dit ça, il pense à Hésiode. Il pense au non-être à la vie. Et quand Heidegger dit que passer par le non-être pour l'être, Heidegger pense au ex nihilo de théologie. Vous voyez qu'Aristote avait raison. Les théologiens passent par le rien pour découvrir l'être. Et c'est vrai, c'est ce qu'on dit habituellement, c'est dans la théologie. On dit que Dieu crée à partir de rien. Donc, avant vous, il n'y avait rien. Et donc, pour vous connaître, il faut regarder rien. C'est très simple, hein? Ex nihilo, on crée à partir de rien. Donc, mettre le non-être avant l'être, c'est une position théologique. Position théologique. Pour le théologien, ça a un sens. Parce qu'avant le rien, il y a Dieu. Vous voyez bien. Pour le théologien, quand il dit ex nihilo, c'est Heidegger lui-même qui fait la remarque. Hein. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de s'en parler avec Aristote. Il y a créateur, ex nihilo, ce qui est. Ce qui est créé. Ce qui est créé. Alors vous voyez, pour le théologien, le créateur est avant. Le ex nihilo. Le théologien sait très bien que le ex nihilo n'existe pas. À partir de rien. Le rien n'existe pas. C'est simplement, j'allais presque dire, une figure rhétorique pour faire comprendre que l'être créé est un pur don, on dit ex nihilo. Mais lorsque on ne regarde plus le créateur, et qu'on garde l'ex nihilo, on a tendance de dire le rien est le seul moyen pour nous de découvrir l'être. Alors le rien, c'est la négation des étangs. Et cette négation de tous les étangs fait apparaître l'être, qui est un au-delà des étangs. Alors vous voyez que l'être a donc une signification unique pour Heidegger, absolument en dehors des étangs. Alors que si vous êtes attentif à un certain réalisme d'un jugement d'existence, c'est à partir de ce jugement d'existence « ceci est » que vous découvrez l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et l'être et « est » ont la même signification. Et donc, pour comprendre ce que c'est être, je reviens toujours à la réalité. Vous comprenez que si l'être n'avait pas la même signification que dans le jugement d'existence, si complètement séparé du jugement d'existence, lorsque je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'être, je ne pourrais découvrir ce que c'est que l'être uniquement en réfléchissant sur ma connaissance. Et en réfléchissant uniquement sur ma connaissance, je resterai dans l'idée d'être. Ce que Heidegger veut tout prier. De fait, en séparant l'être des étants, nécessairement, il retombe sur l'idée d'être. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'au fond, cet être suspendu, séparé des étants, il dit que ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Si c'était Dieu, je comprendrais encore. Dépassant les étangs, je découvre Dieu. Dépassant toutes les réalités limitées, je découvre Dieu. On pourrait très bien dire ça. Mais pour Heidegger, non, l'être n'est pas Dieu. L'être est cet espace intermédiaire entre les étangs et l'absolu. Dieu, dont il ne parle pas. Et qu'il dit, on l'attend. Parce que Dieu, je ne peux saisir que s'il se révèle. Et donc Dieu est au-delà de l'être. Ce qu'il a parfaitement raison de dire. Hein. Dieu ne peut pas être l'être. Dieu est au-delà de l'être. Il est au-delà de l'être, mais je ne peux découvrir Dieu que si Dieu me parle. Si Dieu ne me parle pas, je ne peux pas découvrir Dieu. Parce que je ne peux pas découvrir Dieu à partir des réalités existantes. Donc, vous voyez le passage que je crois très important entre ceci et qu'est-ce que c'est que l'être. Je voulais vous rappeler ça parce que c'est une chose qui est tellement actuelle si on veut maintenir une philosophie première. Si on l'abandonne, évidemment, on n'a qu'à dire que ceci est et ceci, c'est identique. On n'a qu'à dire que sans Thaler réel et sans Thaler pensée, c'est la même chose. Alors, à ce moment-là, évidemment, il ne peut plus y avoir de métaphysique. La métaphysique disparaît. Il n'y a plus que l'expérience des déterminations existantes. Et on tombe devant un positivisme philosophique. Qu'est-ce qui nous sauve d'un positivisme philosophique? Et je ne sais pas ce que vous avez dans le fond, vous riez tout le temps. C'est si drôle que ça ce que je dis. Non, c'est vous. Depuis le début, vous riez tout le temps. C'est très agaçant quand on dit des choses métaphysiques. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne venez pas au cours. Hein. Moi, je crois qu'il faut reprendre ces choses-là. Si on ne les reprend pas, on est complètement en dehors de la plaque. Oui, c'est vous. Vous continuez de toujours faire des petits clins d'œil, de rigoler. C'est agaçant à un plan, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'on essaie quand même de dire des choses qui sont, je crois, actuelles. Je ne sais pas si vous avez lu Heidegger, mais alors répondez autrement, moi je ne demande pas mieux. J'aimerais beaucoup que vous puissiez répondre autrement. Et j'essaie de donner les choses qui sont actuelles. Et si on ne voit pas ces choses-là, on risque d'être complètement en dehors. Alors, faites attention de... Je crois qu'on ne peut pas penser métaphysiquement et sourire. Vous voyez ? Je ne crois pas. On peut rire en dehors, très bien, mais pas tout le temps, quand on pense à métaphysique, de rester tout le temps dans un état... Je ne sais pas. C'est la relation. Hein. Alors on est tout le temps à droite, à gauche. Bon, alors continuons. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, j'essaie de découvrir ce qu'est l'être dans ce qu'il a de plus profond, de plus radical. Et alors, à ce moment-là, j'essaie de saisir le principe. Puisque je ne peux pas répondre vraiment à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» sans saisir le principe propre au niveau de l'être. C'est-à-dire, ce qui est à la racine propre de l'être. Qu'est-ce qui est à la racine propre de l'être? Qu'est-ce qui fait que l'être est ce qu'il est? Au sens profond, qu'est-ce qui fait que l'être est ce qu'il est? Et c'est ça l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être?
C'est pour ça que c'est très difficile. Quand vous posez vraiment l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, vous ne savez plus très bien. La grande astuce d'Aristote, et ça il faut le voir, et ceci, en ceci, il va dépasser Platon, il va réintroduire à l'intérieur de l'être l'au-delà de la détermination, et donc il va redonner à l'être une signification au-delà de la signification des prédicaments. Mais la découverte du principe de l'être, c'est redécouvrir un au-delà de la signification des étangs et une signification radicale. On découvre la signification à l'intérieur même de l'être. Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc, quand je me pose la signification, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je veux savoir ce qu'il y a de plus radical dans l'être, dans ce qui est vu du point de vue de l'être. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de radical dans l'être, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors, le coup, je crois, très intéressant que fait Aristote là, on n'est pas obligé de prendre la même voie, mais je signale la voie d'Aristote, c'est de dire que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et « qu'est-ce que c'est que l'ousia ?» c'est la même chose. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant et très important, c'est l'utilisation des prédicaments pour la métaphysique. Ça arrive plusieurs fois dans la philosophie d'Aristote. Qu'Aristote utilise les prédicaments pour philosopher. Il le fait dans le traité de l'âme. Il se sert des prédicaments pour essayer de comprendre ce que c'est que l'âme. Il dit que l'âme est ousia. L'âme est substance. Et ici, vous voyez, lorsqu'il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que l'être et essayer de sortir, de répondre à cette interrogation qui est fondamentale, qui est première, et parce qu'elle est première, elle n'est pas commode du tout. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et vous comprenez très bien, c'est difficile, puisque j'ai mis « ceci est au-delà de toutes les déterminations ». Alors qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est pas commode du tout, ça m'échappe, puisque d'une certaine manière, tout est être. Si tout est être, comment saisir qu'est-ce que c'est que l'être ? Comment saisir, au-delà de toutes les déterminations, au-delà du tout, l'être ? Toutes les réalités existantes existent. Elles sont. Comment saisir, au-delà de toutes ces réalités, l'être ? Vous voyez, ce dépassement, l'être. Alors, quand on se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», on comprend très bien qu'Aristote revient tout de suite à la substance. Pourquoi ? Parce que selon les prédicaments, la substance est ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations. C'est ce qu'il y a de premier. Si la substance est première dans l'ordre des déterminations, et d'une certaine manière au-delà des déterminations, puisque vous avez la substance première et la substance seconde, et la substance première, c'est le sujet, et toutes les autres déterminations sont relatives à la substance première. Donc, si j'interroge vraiment qu'est-ce que c'est que l'être pour saisir l'au-delà des déterminations, j'en reviens à savoir qu'est-ce que c'est que la substance. Vous voyez, là, les prédicaments vont servir directement à préciser mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et la phrase d'Aristote est très intéressante. L'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et qu'est-ce que c'est que la substance ? C'est la même interrogation. Ça, c'est pas commode à bien saisir, mais c'est très intéressant. Parce que une fois qu'il a l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la substance ? C'est plus facile de déterminer ce qu'est la substance. Et d'essayer de comprendre que quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que la substance ?» au niveau de l'être, je ne m'arrête pas à la substance sujet. Parce que la substance sujet ne peut pas être un principe. Elle est nécessairement relative à autre chose. Elle est un support à déterminer relatif à autre chose. Et donc le sujet et les autres négations sont corrélatives l'une par rapport à l'autre. Et donc je suis obligé de saisir qu'est-ce que c'est que la substance du point de vue métaphysique. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre voie ? Ça, c'est intéressant à se poser la question. Est-ce qu'il y aurait une autre voie ? Quand je me pose qu'est-ce que c'est que l'être, est-ce que je pourrais prendre une autre voie que celle qu'Aristote prend ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? J'ai vu que l'être ici est dépassement de toutes les déterminations, donc des dix prédicaments. S'il est dépassement des dix prédicaments, je comprends très bien comment je peux me servir de la substance. Je ne peux pas me servir d'autre chose. Alors, est-ce que je pourrais découvrir ce qu'est l'être sans passer par les prédicaments ? Il faut se poser la question. Autrement, je répète ce que dit Aristote, sans voir que ce qu'il a dit est une voie qui est la seule. Alors, il faut se poser la question, quand je me pose loyalement qu'est-ce que c'est que l'être, que je montre l'être comme un dépassement de tous les prédicaments, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'être ou au-delà des prédicaments ? L'au-delà des prédicaments, ce serait justement l'action. Et l'action fait partie des prédicaments. Mais le verbe, le plus simple, c'est le verbe être. Et donc, il n'y a rien au-delà du verbe être. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre voie ? Est-ce que je pourrais prendre la voie du non-être ? C'est la voie de Heidegger. Vouloir expliquer qu'est-ce que c'est que l'être par le non-être. En disant ce qu'il y a de plus radical dans l'être, c'est justement la non-détermination. Et donc, le plus radical dans l'être, c'est la non-détermination. Et si c'est la non-détermination, est-ce que je peux, par la non-détermination, aboutir à comprendre ce que c'est ? Se poser la question, pour savoir si vraiment la seule voie d'accès, c'est vraiment dire qu'est-ce que c'est que l'être, revient, qu'est-ce que c'est que la substance. C'est important ça, vous voyez, parce que c'est par là qu'on peut reprendre quelque chose sans le répéter. Parce qu'on a soi-même découvert la voie d'accès. Autrement, on répète. Alors quand on répète, c'est très bien. Ce n'est pas précisément philosophique. Donc on doit essayer de découvrir. Quel genre doit découvrir ce que c'est ? Bien, par le point de vue du non-être, je ne peux pas découvrir ce que c'est de l'être, puisque le non-être est donné en fonction de l'être. Si du moins, je reconnais que l'affirmation est antérieure à la négation. Si je prends la négation première par rapport à la négation, alors à ce moment-là, le non-être devrait pouvoir m'éclairer sur l'être. Mais comme le non-être a une signification, c'est rien, hein, il ne me dit rien sur l'être. Et c'est ce qu'aboutit à dire. L'être n'a aucune signification. Aucune. C'est pour ça que penser l'être, c'est pas être plus loin. Parce qu'il n'a aucune signification, c'est pas étonnant. Si je veux découvrir la signification de l'être par le non-être, il n'y a rien. Donc je vois bien que la seule manière de rendre intelligible l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, c'est de revenir au prédicament. C'est-à-dire de revenir à la substance. Et de dire que l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que la substance, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre des déterminations, l'être, c'est la substance. Mais je peux poser la question de savoir alors ce qu'est la substance par rapport à l'être. Ce n'est plus par rapport aux autres déterminations. Et c'est à ce moment-là où il y a un dépassement des prédicaments où je découvre la substance comme principe. C'est-à-dire ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Et je peux dire alors à ce moment-là que l'ousia, la substance, c'est la cause,
selon la forme de ce qui est. Je ne découvre pas la substance comme sujet. Découvrir la substance comme sujet, ce serait rester dans le prédicament. Il faut découvrir la substance comme un au-delà, quand je la regarde par rapport à elle, comme un au-delà des prédicaments, comme un au-delà du sujet, et comme ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Premier selon la forme, et on comprend très bien, on précise, à cause de l'interrogation qu'est-ce. L'interrogation qu'est-ce cherche en premier lieu les déterminations. Et donc c'est normal de dire principe selon la forme, ou si vous aimez mieux, principe de toutes les déterminations de l'être. Ça reviendra au même. De dire principe selon la forme de ce qui est, ou bien dire principe de toutes les déterminations qui est. C'est cela le propre de la substance. Alors, vous comprenez, cette découverte de la substance est quelque chose de très important pour découvrir ce que c'est que l'homme. L'homme qui existe. Dans toute réalité existante, il y a une source d'autonomie. Et cette source d'autonomie, c'est l'ousia. Dans toute réalité existante, il y a un au-delà de toutes les déterminations que l'on voit, qui est l'ousia, qui est la substance. Et la substance est donc cette source immanente de toutes les déterminations. Principe de toutes les autres déterminations. Voilà, première chose que je découvre. Et vous voyez que pour pouvoir dire cela, il faut nécessairement passer par le point de vue de la métaphysique. Alors, avant de voir cela, avant de voir l'autre aspect, je pourrais voir la nécessité de passer par le point de vue métaphysique en mettant le parallélisme entre l'ousia et la phusis, c'est-à-dire la nature. Donc, voir le parallélisme entre la substance et la nature. Et le point de vue de la psyché, le point de vue de l'âme. Parce que c'est évident qu'il y a un lien très fort entre phusis, nature, forme, phusis, eidos, la psyché, l'âme, et l'ousia. C'est très proche. Et cependant, je suis obligé de reconnaître que c'est sur trois plans différents. Et que si je recherche ce que c'est que l'autonomie de l'homme dans l'ordre de l'être, je ne peux m'arrêter qu'à l'ousia. Parce que la psyché, c'est l'autonomie dans l'ordre de l'être. Et la phusis, c'est l'autonomie dans l'ordre du devenir. Ce n'est pas l'autonomie dans l'ordre de l'être. Donc si je cherche ce qu'est la personne, en tant qu'elle est un noyau central, fondamental d'autonomie. D'autonomie dans l'ordre de l'être. La personne a son indépendance dans l'ordre de l'être. Elle ne dépend pas de quelque chose d'autre. Elle dépend dans son conditionnement de quelque chose d'autre, mais elle ne dépend pas dans son être. Une autonomie fondamentale. Si je regarde donc la substance comme principe d'autonomie, je vois que je suis obligé de passer par la philosophie de l'être pour découvrir l'ousia. Donc, premier point acquis, hein, c'est que de fait, l'ousia me permet de saisir la source d'autonomie dans l'ordre de l'être. C'est ça l'ousia. Donc, une fois que je découvre ce principe, je me demande comment se réalise l'ousia. Et je vois que l'ousia dans notre monde physique se réalise toujours dans la complexité. L'ousia qui est simple comme principe, comme arché, elle est indivisible. Elle se réalise dans la complexité. Et donc là, je rejoins le point de vue de l'ousia et de la phusis. La nature elle-même est toujours complexe. Toute ousia, quand je la regarde dans sa réalisation, est une nature. Et quand c'est un être vivant, elle implique une âme et un corps. Donc, je suis en présence de la complexité de l'ousia. J'ai saisi l'individualité de l'ousia et j'ai saisi la complexité de l'ousia. Dans notre physique, l'ousia se trouve réalisé toujours dans la complexité. C'est là le fameux problème de l'individuation. Qu'est-ce que c'est que l'individu ? L'individu, c'est justement la substance qui se trouve réalisée dans notre monde physique, de cette manière, dans la complexité. Il se trouve réalisé dans la complexité. Donc, se trouvant réalisé dans la complexité, c'est un individu qui se sépare du tout. On a sonné, hein ? C'est l'heure.